Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous. Comme tous les mercredis, le réveil culturel et cinéma. Et aujourd'hui, on va parler d'un metteur en scène que peut-être vous ne connaissez pas aujourd'hui. Il a ausculté la société française de l'après-guerre, il s'est intéressé au fonctionnement de la justice en France, il a donné à Jacques Brel l'opportunité de devenir comédien, il s'agit d'André Cayat. Les risques du métier, c'est lui, il a réalisé aussi Avant le déluge, il a eu un succès populaire phénoménal avec Mourir d'aimer, avec Annie Girardot, mais il a réalisé beaucoup de films, Œil pour œil, Justice est faite, Le passage du Rhin, il a été très très longtemps sous-estimé, pour ne pas dire moqué, par la critique française, mais ne valait-il pas que cette année on lui rend hommage? Est-ce qu'on réhabilite André Cayat? Pour répondre à cette question, deux grands critiques de cinéma. Michel Simon du magazine Positif, bonjour Michel.
Bonjour.
Et Noël Herpe qui prépare un livre sur André Cayat et qui sera très très présent ces jours-ci d'ailleurs à Lyon, où on est en train de célébrer André Cayat au festival Lyon Lumière, à travers une rétrospective de 15 de ses films.
Bonjour
Noël Herpe, bonjour à tout le monde, bienvenue dans le Réveil Culturel, émission ouverte tous les jours de la semaine, tôt le matin à la radio, ou quand vous voulez, quand vous passez par l'écoute en ligne en différé, ou l'abonnement au podcast. Corinne Amar à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation, et ce matin, à la prise de son, Éric Boissé.
Le Réveil Culturel, mercredi, cinéma.
Alors, je ne vais pas vous sortir les articles consacrés au cinéma d'André Cayat signé par un certain François Truffaut, mais on est bien d'accord, Michel Simon et Noël Herpe, que cette année, on tente de réhabiliter quelqu'un qui a été très longtemps mal vu par la critique française.
Je ne dirais pas la critique française, je dirais les cahiers du cinéma essentiellement, parce que Cayat avait de très bonnes critiques, d'excellentes critiques, que Cayat est le seul cinéaste avec Ang Lee à avoir eu deux fois le Lion d'Or au Festival de Venise pour Justice est faite et Le passage du Rhin. Mais c'est vrai qu'il a fait partie de ces cinéastes qui ont été déboulonnés par les cahiers au nom d'une prise de pouvoir future de la nouvelle vague. C'est René Clément, c'est René Clair, c'est Henri-Georges Clouzot, des grands cinéastes, peut-être plus grands encore que Cayat sûrement, mais qui néanmoins ont été démolis. Mais c'est pas du tout la critique. La critique française savait apprécier les films de Cayat.
Oui, il faut voir aussi qu'il y a un côté idéologique dans tout ça, c'est que Cayat était un représentant de la gauche engagée qui faisait des films de témoignages, des films sociaux, des films à thèse, a-t-on dit, une étiquette qu'il réfutait. Il est certain que Truffaut, qui à l'époque était plutôt de droite, qui était plutôt dans une vision élitiste et formaliste du cinéma, plutôt esthète, ne pouvait que rejeter ce cinéma-là. Il n'aimait pas, il faut préciser aussi qu'il n'aimait pas du tout le scénariste de Cayat, qu'il avait violemment attaqué dans son célèbre article Une certaine tendance du cinéma français, qui s'appelait Charles Spack, qui était un grand scénariste de cette époque et qui a conçu avec Cayat une tétralogie très ambitieuse sur le fonctionnement de la justice dans ces années-là.
Mais sauf Noël Herpe, on peut retourner tous ces arguments comme une crêpe, parce que il y a des gens qui reprochaient à André Cayat d'être conservateur, d'avoir quand même travaillé pendant l'occupation. Il a même été inquiété à la Libération et que
Robert Bresson a travaillé pendant l'occupation, Jacques Becker a travaillé pendant l'occupation. Beaucoup de grands cinéastes français ont débuté sous l'occupation.
Non, mais surtout que l'âge d'or du cinéma français passe aussi par cette période.
Sous l'occupation ne veut pas dire qu'on est pétainiste. Il y a des gens admirables qui ont travaillé sous des régimes de dictature qui n'étaient pas staliniens, par exemple, qui faisaient des films.
Alors que dit justement cette rétrospective actuellement à Lyon, au Festival Lumière, quand on revoit les films d'André Cayat, Noël Herpe?
Justement sur cette période de l'occupation, je crois que c'est un peu un mauvais procès, d'ailleurs dont fait justice Christine Leteux dans son livre sur la Continentale, où elle montre bien que Cayat était un prisonnier évadé, et Alfred Greven, donc patron de la Continentale, société allemande, lui a fait une sorte de chantage en le menaçant de le renvoyer en Allemagne s'il n'acceptait pas, lui qui était un scénariste brillant, un jeune scénariste débutant, et s'il n'acceptait pas de travailler pour sa société. Donc, il a été un peu contraint. Il a été très très courageux dans la mesure où il y a eu toute l'affaire du film Caprice avec Daniel Darieux, où il a été un peu mêlé à la récupération par le cinéaste Léo Johannon d'un scénario écrit par des Juifs, Raymond Bernard et Jacques Companèse. Et ensuite, il s'est dédouané de toute cette histoire avec beaucoup de courage en rendant à Raymond Bernard la paternité de son film. Bertrand Tavernier nous raconte aussi une chose saisissante, c'est qu'au moment de la rafle du Vel d'Hiv, Cayat est allé voir ce qui se passait et revenu dans les studios pour alerter des gens, alors que tout le monde s'en foutait. Donc Kayat est vraiment, on peut vraiment pas dire que ce soit pas un homme de gauche, un homme engagé, et il le montre en plus dans ses films d'après-guerre, en revenant sur cette période, en parlant de l'antisémitisme, en le mettant en scène dans un sketch glaçant du film Retour à la vie, avec la rescapée de Dachau qui revient des camps et où personne n'entend sa souffrance, avec Avant le déluge, avec le père antisémite qui endoctrine son fils, qui à cette époque-là, parler de l'antisémitisme dans le cinéma. Personne, Kayat, a le courage de revenir à chaud, à brûle-pourpoint, 10 ans après, sur ces années terribles, et de sortir les cadavres du placard et de remettre tout sur la table.
Alors que François Truffaut lui-même était le meilleur ami de Lucien Rebattet, condamné à mort pour antisémitisme, pour crapulerie sous l'occupation. C'était un grand ami de Truffaut qui lui a rendu hommage. Donc les choses ne sont pas aussi noires et blanches que cela.
Lucien Rebattet, qui par ailleurs aimait bien les films de Kayat, car en effet, comme le dit Michel, rien n'est tout noir ni tout blanc dans cette affaire, et dans cette époque.
Revoir aujourd'hui les films d'André Kayat, c'est quoi, Noël? C'est replonger dans une France qui a disparu, ou ça reste quand même des questionnements qui peuvent encore résonner aujourd'hui, à l'époque d'aujourd'hui?
À côté, c'est pas compliqué. Moi, j'ai fait l'expérience de montrer Justice est faite à mes étudiants. Ils ont été scotchés d'un bout à l'autre du film, à la fois par le côté actuel du film, puisque c'est un cas d'euthanasie qui reste très actuel aujourd'hui, un cas aussi de liberté de la femme, etc. Bon, des sujets qui les ont beaucoup touchés, et beaucoup m'ont dit, c'est un film qui nous parle encore aujourd'hui. Et puis, il y a aussi une chose chez Kayat qui, moi, m'a touché dès mon enfance, mon adolescente, quand j'ai découvert ces films au dossier de l'écran, comme tout le monde dans les années, enfin, tout le monde à cette époque, dans les années 70, puisque ça repassait beaucoup dans le cadre de cette émission. Il était très copain avec Armand Jameau, avec qui il a d'ailleurs écrit un film.
Et puis surtout, ces films se prêtaient à un débat.
Bah oui, bien sûr. Mais il y a surtout chez lui un sens du récit, extraordinaire. Pour moi, c'est un grand auteur de mélodrame, en fait, Kayat. Je pense qu'il a peut-être un peu eu tort de se vendre uniquement comme un auteur social, comme un auteur engagé, alors que c'est aussi un grand auteur de mélodrame, quelqu'un qui sait tenir son spectateur en haleine avec des rebondissements, qui sait mettre en scène les procès avec maestria, et d'ailleurs à telle enseigne qu'il a commencé par deux films géniaux de mélodrame, qui sont malheureusement pas dans la rétrospective Lumière, mais qu'on redécouvrira sans doute bientôt. C'est Roger Lahonte, La revanche de Roger Lahonte, avec une magnifique distribution, Maria Cazares, Louis Salou, etc. Et c'est vraiment quelqu'un qui aime le mélo et qui déploie la scène judiciaire comme une scène de mélo à l'intérieur du cinéma des années 50, comme une scène où tout d'un coup une société en perte de repères refait lien à travers le récit, le grand récit mélodramatique.
Et vous, qui êtes de la revue Positif, c'est-à-dire une revue qui s'est quand même positionnée contre les cahiers du cinéma, Michel Simon, vous consacrez d'ailleurs 10 pages à André Kayat dans le dernier numéro de Positif. Aujourd'hui, quand vous revoyez les films d'André Kayat, d'un point de vue stylistique, je parle de la réalisation, vous vous dites que c'est du cinéma daté ou ça reste pour vous encore du bon cinéma?
Je pense que ça reste du bon cinéma et que c'est d'abord, comme le disait Noël Herbe, c'est pas du tout manichéen comme on le représente. Il implique le spectateur. Le titre n'est pas pour rien. Nous sommes tous des assassins. C'est-à-dire que Kayat interroge le spectateur, lui demande de se mettre à la place, de voir ce qu'il ferait lui. Donc c'est déjà un questionnement. Ouais. Et je pense que ça, c'est quelque chose de rare dans l'époque. D'autre part, quand on voit qu'un nouveau sondage vient de dire que 57% des Français sont pour le rétablissement de la peine de mort, Kayat était contre la peine de mort. Donc ce sont des sujets qui sont extrêmement passionnants. Et d'autre part, c'était un très bon directeur d'acteur. Il y a des performances d'acteurs dans les films de Kayat qui sont remarquables. Donc le rôle de Positif, c'est pas d'être dans un manichéisme critique. C'est au contraire de donner la parole d'abord. Noël Herbe a travaillé très longtemps et il continue à travailler plus sporadiquement à Positif. Nous lui avons confié une dizaine de pages sur Kayat, avec un grand entretien avec Bertrand Tavernier, justement, qui lui aussi abolit les frontières entre cinéma de papa, cinéma moderne, tout ça ne veut rien dire. Chabrol est autant dans le cinéma de papa que dans la Nouvelle Vague, et pourtant c'est un grand metteur en scène. Donc, Tavernier, qui a été l'attaché de presse de Chabrol, l'attaché de presse de Godard, il est capable aujourd'hui de plaider pour Clouzot, de plaider pour Kayat. Je crois qu'il faut finir à ces guerres de religion qui sont absolument insensées et qui ont beaucoup nui à de grands artistes.
J'entends que vous laissiez mon fils tranquille.
Véra ! Quitte cette sorcière ! Tu ne vois pas ce qu'elle fait de toi ?
Vous prenez plaisir à le détruire ! À détruire tout !
Véra ! Vous voyez bien que vous voulez son droit !
Je deviens dingue là-dedans. Complètement dingue.
Ouvrez-moi ! Bande d'assassins !
Vous connaissez son âge?
Pour moi, c'est un homme. Jeune. Je l'aime.
En Maître, tous les enfants se sont pris pour des hommes. Mais la loi est restée la loi.
La loi, la prison et la société qui change. La société de l'après-guerre, ça c'est un extrait de peut-être le plus grand succès populaire d'André Cayatte, Mourir d'aimer en 1971, avec Annie Girardot qui tombe amoureuse d'un jeune étudiant et c'est le scandale. C'est incroyable.
Bah oui, c'est, et d'ailleurs, ouais, ce serait peut-être encore le scandale aujourd'hui pour d'autres raisons, mais je sais pas si Cayatte pourrait aujourd'hui faire un film comme Mourir d'aimer, mais qui à ce moment tombe, on peut dire, à point nommé, puisque c'est un film qui intervient après mai 68, après l'affaire Gabrielle Russier qui avait ému toute la France, donc de cette femme professeure dans un lycée de Marseille qui avait eu une histoire avec un de ses élèves de 17 ans qui finalement s'était suicidé après que le procureur avait fait appel de l'amnistie et du sursis qui lui avait été accordé. Donc c'est une histoire qui va beaucoup émouvoir Cayatte, qui est toujours prompt à se révolter contre les injustices et qui va à peine la transposer avec Pierre Dumayet dans son film Mourir d'aimer avec Annie Girardot qui va bouleverser la France entière, 6 millions de spectateurs. Bon, ça fait partie aussi de la veine sociologique du cinéma de Cayatte, qui n'est pas simplement quelqu'un qui montre le fonctionnement de la justice, mais qui montre aussi l'évolution de la société et un certain nombre de blocages qui empêchent la société d'avancer, un certain nombre d'institutions qui sont réfractaires à la poussée des mœurs. Je pense que c'est certainement un film qui a dû avoir son influence sur le fait que Valéry Giscard d'Estaing, quelques années plus tard, va abaisser l'âge de la majorité. De même que Nous sommes tous des assassins, qui est un film absolument extraordinaire sur la peine de mort, qui montre plusieurs exécutions capitales en temps réel, qui montre comment ça se passait dans les prisons françaises à ce moment-là. Ce film a eu une certaine influence sur le président Vincent Auriol, qui a gracié des condamnés à la suite de son visionnage. Malheureusement, ça n'a pas suffi à faire abolir la peine de mort. Mais il y a chez Cayatte, disait finalement, sur 6 millions de spectateurs, s'il y en a une quinzaine qui sont convaincus, ça me suffit. Il s'inspire d'ailleurs de la lettre qu'a laissée Gabrielle Russier juste avant sa mort, disant « Je voudrais que mon exemple serve à quelque chose ». Il y a cette naïveté peut-être chez lui. Il disait par exemple, il avait dans une interview, il disait cette chose extraordinaire, il disait que Eichmann, il fallait pas le condamner, il aurait fallu l'obliger à vivre en Israël et à marcher dans la rue tous les jours avec des descendants de ses victimes qui l'auraient regardé et qui l'auraient jugé. Et c'est ça Cayatte, c'est-à-dire cette envie de mettre la culpabilité sur la place publique et de faire du cinéma une espèce de vaste agora où, comme le disait Michel, il n'y a pas de manichéisme finalement, il ne s'agit pas forcément d'isoler des boucs émissaires, mais où on est tous plus ou moins spectateurs et acteurs, coupables et victimes. Il y a une grande relativité dans son cinéma, un grand relativisme, un côté à la fois on est tous là pour débattre d'un certain nombre de problèmes de société assez graves, mais en suspendant le jugement. C'est pour ça que je ne suis pas tellement d'accord avec cette étiquette de film à thèse ou de film caricatural. Très souvent, quand on sort d'un film de Cayatte, c'est peut-être moins le cas de Mourir d'aimer, qui est un film un peu démonstratif, ou même de Nous sommes tous des assassins. Mais par exemple, un film comme Avant le déluge, ou Œil pour œil, sont des films vertigineux, enfin, qui montrent finalement une sorte de vice sans fin de la culpabilité, une grande difficulté à établir un jugement moral. Il est le cinéaste, finalement, d'une société en perte de repère, où les valeurs du monde ancien s'effondrent, et il est le témoin de ce passage.
Il est le témoin de ce passage où il est un acteur qui pense changer les mentalités. Est-ce qu'il faisait un cinéma avec une finalité sociologique, avec un message ?
Oui, mais il a été pour une courte période avocat, et on le retrouve. C'est un homme qui est choqué par l'injustice. Je crois qu'il s'est battu toute sa vie, dans son cinéma en particulier, contre l'injustice. Et encore une fois, il a été victime un peu dans un certain milieu très restreint de la critique, il a été victime de cela. C'est-à-dire on était prêt à admirer, 7 ans plus tard, 12 hommes en colère de Sidney Lumet, qui est un très bon film américain, mais au fond, il n'y a pas une différence fondamentale dans le mécanisme d'un jury dans Cet homme en colère, avec, en 1950, Cet homme en colère est de 57, donc en l'espace de 7 ans, Cayatte avait précédé Lumet, qui a été voué aux gémonies par certains, alors qu'on admettait bien le cinéma de Lumet. Je trouve que c'est d'une grande injustice.
Alors, André Cayatte, réhabilité, est-ce qu'il faut utiliser ce mot réhabilité par le Festival Lumière de Lyon, avec cette riche rétrospective, la sortie de ses films en DVD et certains films aussi au cinéma, en copie restaurée?
Oui, je pense qu'il faut constamment réviser l'histoire du cinéma. On ne peut pas faire une histoire du cinéma qui est figée. C'est le rôle de quelqu'un comme Bertrand Tavernier, ou dans son rôle Noël Herbe, de s'intéresser à des gens que la doxa, soi-disant doxa, n'accepte plus.
Alors, de tous les films d'André Cayatte, il y a un qui est troublant, en tout cas c'est troublant de le revoir aujourd'hui, c'est Les risques du métier. Alors, on se souvient, c'est la première fois que Jacques Brel joue dans un film, c'est la première fois donc que ce grand chanteur va tenter sa chance au cinéma.
Et réalisateur plus tard.
Et après, il deviendra réalisateur. Mais là, ce que je vous propose, il est interviewé par Léon Zitrone à la sortie du film Les risques du métier, et c'est lui qui résume l'histoire.
Au cinéma, vous avez joué simple.
Oh, j'ai pas joué, j'ai fait ce que j'ai pu.
Qu'est-ce qui vous a plu? Le rôle?
Non, l'histoire. On parle d'injustice.
C'est un instituteur.
C'est un instituteur qui est bien vu, enfin, semble-t-il, bien vu. C'est un type normal, enfin, avec ce que ça a de gentillesse et aussi un peu de mollesse. Enfin, c'est un type assez noble, enfin, dans l'ensemble. Qui est accusé, brusquement, dans un village où il est bien vu, il est accusé de tentative de viol, enfin, de choses comme ça, par des gamines, pour des raisons différentes. Et toute la population se retourne contre lui. On croit les fillettes, on ne le croit pas lui. Voilà.
Jacques Brel, le rôle de l'instituteur,
oui.
Comment l'avez-vous travaillé? Vous en êtes-vous imbibé? Est-ce que vous êtes allé, par exemple, dans l'une des campagnes que vous avez fréquentées?
Non. Parce que l'instituteur, pour moi, c'est... j'attache pas beaucoup d'importance à la fonction des hommes, j'attache beaucoup plus d'importance à la manière dont ils... Il m'a semblé urgent que ce type soit un brave type. Mais il aurait pu être garagiste, dans mon esprit, vous comprenez? Il fallait un brave type.
Voilà, Jacques Brel parlant de ce film « Les risques du métier ». Dallaire.
Je trouve ce film formidable, pas toujours formidablement mis en scène, c'est pas le meilleur film, mais je trouve que le film justement nous montre la relativité de la parole humaine, la fragilité du témoignage, à quel point il faut être très prudent dans ce genre d'affaires, voilà. Et ça préfigure évidemment l'affaire Doutreau et d'autres erreurs judiciaires célèbres qui ont marqué les annales. Alors effectivement, peut-être qu'en plein contexte MeToo, ce film peut déranger certaines personnes, mais moi personnellement, ce qui me dérange, c'est qu'on fasse plus des films comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire des films qui montre comment quelqu'un peut être injustement accusé sur la base de témoignages qui sont par définition faillibles. C'est un sujet qui l'intéresse beaucoup. Hein. De toute façon, Cayatte, il n'a pas attendu Les risques du métier pour dénoncer ça. Mais dans Le dossier noir, par exemple, qui est un film assez terrible sur les dysfonctionnements de l'instruction, sur le peu de moyens de la justice, il se contente pas simplement de tenir un discours, ce discours « ne jugez pas » dont je parlais tout à l'heure. Il montre aussi que pourquoi la justice fonctionne mal, parce qu'elle n'a pas assez de moyens, les collusions entre la justice et la police, etc., des choses qui sont toujours actuelles aujourd'hui. Donc je trouve ça, c'est peut-être dérangeant, mais c'est formidable d'être dérangeant comme ça. Et je souligne aussi une petite chose dont je voulais parler tout à l'heure, c'est que Cayatte est un grand directeur d'acteurs, beaucoup plus qu'on a bien voulu le dire. Il a obtenu de certains de ses comédiens des performances remarquables. Je pense à Danny Carell dans Piège pour Cendrillon, notamment, à Kurt Jürgens, comme le dit bien Tavernier, dans Œil pour œil, qu'ils n'ont jamais été meilleurs que dans ses films. Mais c'est aussi un directeur de chanteurs. C'est quelqu'un qui a fait, car il travaillait avec des stars. C'est sûr qu'il voulait toucher le grand public. Il y est souvent arrivé. Mais il a
commencé avec Tino Rossi.
Il est arrivé à faire un comédien de Tino Rossi dans un très bon film. D'ailleurs, Le chanteur inconnu, qui est filmé en partie en caméra subjective, qui est un film très intéressant à redécouvrir. Il a fait tourner Aznavour, un magnifique rôle dans Le Passage du Rhin, où il joue en français prisonnier de guerre en Allemagne, qui choisit finalement de rester vivre en Allemagne. C'est un film là aussi dérangeant, comme vous dites, mais très courageux dans le contexte de l'époque et encore aujourd'hui, et qui a beaucoup choqué à l'époque. Il a fait travailler Mouloudji, à qui il a donné un rôle magnifique dans Nous sommes tous des assassins, où il reprend le rôle du sale juif que jouait Mouloudji dans Les Inconnus dans la maison, et où il en fait un personnage sympathique, et il retourne complètement l'antisémitisme qu'on attachait au personnage de Mouloudji dans les films de l'occupation. Donc ça, c'est assez remarquable. Aussi. Il va même d'ailleurs chercher un ancien collabo, Balpétré, et il lui donne un rôle de collabo dans son film Avant le déluge. Donc il aime bien jouer aussi avec la persona ou avec la personnalité ou avec la vie privée de ses acteurs, d'une manière parfois un peu perfide.
Alors aujourd'hui, on se dit André Cayatte demandant à Jacques Brel d'interpréter le rôle principal d'un film, c'était plutôt bien vu, que les producteurs avaient sans doute poussé André Cayatte à prendre une telle vedette du musical, et alors pas du tout. On a retrouvé une interview de 1967 d'André Cayatte qui expliquait à quel point il a fallu qu'il insiste pour imposer Jacques Brel.
J'avais été frappé par ses qualités d'expression directe. C'était un rôle d'instituteur de plein pied avec les enfants. Et Brel a cette qualité. Il a ce don de s'émerveiller qui est au fond la qualité principale de l'enfant. Ce don de s'indigner aussi.
Thank you. Par ton rythme langoureux, je la tenais là blottie dans mes bras. Un même plaisir, un même frisson semblait unir, comme par un lien son cœur et le mien. Tango d'un soir, tango de nostalgie. Instant bien trop court, ici-bas tu resteras toujours le plus beau de mes souvenirs d'amour.
Sérénade au nuage, Tino Rossi, cet extrait d'un autre film d'André Cayatte, puisqu'il a aussi tourné quelques nanars.
Oui, il a tourné quelques nanars, mais on redécouvrira dans cette rétrospective au Festival Lumière, qui est quand même assez complète, même si c'est qu'une quinzaine de films, et c'est déjà beaucoup. On découvrira des films intéressants qu'il a tournés pendant l'occupation, comme Pierre et Jean, d'après Maupassant. Le Dernier Sou aussi, qui est un polar assez sombre. Il y a aussi Le Dessous des Cartes sur l'affaire Stavisky. Faut redécouvrir aussi les travaux de jeunesse de Cayatte, hein. D'ailleurs, il y a aussi des travaux littéraires. C'est ce dont je parlerai, je l'espère, dans mon livre.
Il a été romancier.
Il a écrit des livres d'inspiration surréaliste. Il a été célébré dans sa jeunesse par René Char. Il y a tout un Cayatte avant Cayatte, qui est un jeune homme du Sud-Ouest, épris de littérature, qui va aller en Espagne au moment chroniquer le Front Républicain en Espagne pendant la guerre d'Espagne. Il fait un livre de ça. Donc, il est très tôt engagé, qui participe à certaines affaires judiciaires en tant qu'assistant avocat. Mais faut pas surestimer cette carrière d'avocat qui était en fait assez courte, mais c'est vraiment quelqu'un qui veut déjà témoigner, qui va passer à la réalisation vers l'âge de 35 ans, qui va effectivement un peu faire ses classes. Mais il y a déjà quand même des films ambitieux, et puis la consécration va venir, disons, à partir des Amants de Vérone, qui est le film donc écrit Jacques Prévert, et qui est lui aussi un film assez brûlant, hein, sur la chute du fascisme, sur la fin d'une certaine période de l'Italie, dans lequel il plonge des personnages, des espèces de Roméo et Juliette modernes. Donc il y a à la fois chez lui ce goût de témoigner de son temps, en traitant des sujets qui fâchent, et qui fâchent encore aujourd'hui, c'est ça qui est remarquable, et en même temps de jouer de la relativité des apparences, de jouer du simulacre, du faux-semblant, qui est un thème qui vient peut-être du théâtre de Pirandello, par exemple, en tout cas de ses influences de jeunesse, de son côté surréaliste. C'est quelqu'un qui aime à faire bouger nos certitudes.
Michel Simon, pour terminer, alors un numéro de positif qui laisse quand même la part belle à André Cayatte, à l'occasion de cette rétrospective au Festival Lumière à Lyon, mais il n'y a pas que ça.
Alors, il y a évidemment l'actualité des films avec de grands entretiens avec Nicolas Parisère, Alice et le maire, qui est la couverture, Ad Astra de James Gray et La fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti, un superbe film d'animation.
Ouais,
et puis, une autre réhabilitation, Mauro Bolognini, qui va avoir une rétrospective complète à la Cinémathèque à partir du 31 octobre, pendant un mois, pendant tout le mois de novembre. Bolognini a eu la malchance d'arriver à une époque extraordinaire du cinéma italien, avec Visconti, avec Pasolini, avec Rossi, avec Fellini, avec Antonioni, il y en avait tellement de Zurlini, il y avait tellement de grands cinéastes, Risi, Comencini, que on a un peu classé Bolognini dans un esthète qui faisait des films magnifiques, mais essentiellement décoratifs, calligraphiques, comme on dit. Et nous, on a voulu reparler de Bolognini, qui a fait 5 films avec Pasolini comme scénariste, qui a fait de très belles adaptations de Brancati, comme Le Bel Antonio, qui a fait Bubu de Montparnasse avec Charles Louis-Philippe, Une Dame aux Camélias. Donc c'est un cinéaste extrêmement esthète, raffiné, dont les films méritent vraiment d'être revus. Et on est très content de faire 22 pages sur lui, parce qu'on ne parlait plus de lui depuis 20 ou 30 ans.
Et tous les détails concernant aussi bien cette rétrospective consacrée à André Cayatte à Lyon que sur la filmographie et la réhabilitation par positif de Mauro Bolognini.
Et la Cinémathèque française.
C'est ça l'événement. Est à retrouver, bien sûr, à la page du Réveil culturel sur franceculture.fr.
Le Réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Merci Noël Herp d'être passé ce matin.
Merci.
Alors le livre sur André Cayatte, c'est pour quand ?
Bah, il faut que ça incube, il faut que ça se réfléchisse, que ça se prépare, mais...
Vous avez déjà un titre ?
Oui, alors non, pas vraiment, non, je suis assez superstitieux, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à raconter, car c'est une vie très romanesque et pleine de rebondissements.
En tout cas, vous allez présenter quelques-uns des films d'André Cayatte lors de cette rétrospective à Lyon. Merci Michel Simon d'être passé.
Merci beaucoup.
Passez une bonne matinée sur France Culture, on se retrouve demain à la même heure.